Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 24 de ce vendredi 15 décembre 2023, en compagnie des gars de la presse, ils sont Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume!
Hello JR!
Alexandre Pratt qui est avec nous, salut Alexandre!
Salut Jérémy!
Nous avons pour le 98.5 FM Antoine Roussel, salut Antoine!
Salut les gars!
Bon messieurs, je vous donne un sommaire de ce qu'on va discuter ensemble, on va se parler du manque d'attaque évidemment chez les Canadiens, de la part des attaquants, pas les défenseurs, mais les attaquants. On va se parler de Martin Saint-Louis, dit le gourou. Nathalie Collard, dans la presse, dit Martin Saint-Louis, mon gourou. Je veux qu'on prenne le temps de parler de ça. C'est vraiment intéressant comme perception de Martin Saint-Louis. On va se parler des changements d'entraîneur. Entre autres, il y en a eu un dernier du côté des Blues de Saint-Louis, Craig Berube, qui a été congédié. Et on va revenir sur le nouveau nom de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec pour la Ligue d'hockey junior maritime Québec. OK. Parfait, pas de trouble avec ça. Mais justement,
tu nous mêles.
Écoute, c'est assez mêlant, merci. Mais justement, on va se faire un petit bilan médical du côté du Canadien de Montréal parce qu'il y a eu beaucoup d'absents lors du dernier entraînement. Il y en avait encore aujourd'hui. Guillaume, je sais que tu étais à l'entraînement. Raconte-nous, là.
Exactement. En fait, ben, le seul absent des deux jours, c'est Jake Evans. Alors, le Canadien n'a pas donné aucune mise à jour, si ce n'est qu'il subit des journées de traitement. Donc, autant hier qu'aujourd'hui, c'est des journées de traitement qu'il y avait. Alors, on connaît pas, on n'a pas plus d'informations que ça quant à sa présence demain.
Est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait dire qu'il est blessé?
Pas du tout, non, pas du tout, c'est ça. Puis tu vois, hier, à l'entraînement d'hier de jeudi, il y avait Gallagher, par exemple, qui était absent, qui lui avait des traitements. Lui, on l'avait vu pendant le match de mercredi, il avait même quitté brièvement au vestiaire. Donc lui, on s'en doutait. Matheson avait également raté l'entraînement de jeudi. Lui avait joué 32 minutes, dont 4 minutes 16 en prolongation. Donc lui, on pouvait comprendre les traitements. Mais donc c'est ça. Donc bref, Jake Evans, deux jours de suite, non, ça vient vraiment de... C'est ça, on a rien... Je suis retourné voir dans mes notes, tout ça, j'ai rien noté. Donc, aucune idée pour ça. Et il y a Jordan Harris, dont le retour semble quand même proche. Plutôt cette semaine, le Canadien disait entre 10 et 14 jours. Hier, il a patiné en solitaire et aujourd'hui, il a patiné avec l'équipe. Il a d'abord patiné en solitaire et ensuite, il a participé à l'entraînement complet avec l'équipe. Alors, il semble bien que le 10 à 14 jours est en voie d'être respecté.
Quand on parle de journée de traitement, tout le monde se questionne, qu'est-ce qu'ils font? On va aller voir un gars qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Antoine Roussel, une journée de traitement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Ben, généralement, c'est soit tu soignes des petits bobos, tu sais, des petites élongations, des étirements, ou sinon, ben, c'est vraiment juste pour faire du repos. Il y a généralement les gars qui ont ces journées-là, c'est les gars qui jouent en moyenne 20 minutes par match et plus, puis que la saison, ben, ça draine, puis tu veux qu'ils gardent leur énergie pour les matchs. Donc, s'ils viennent à l'aréna, ils font un petit entraînement sur le tapis roulant avec des poids, des petites affaires de même, un petit étirement, bain chaud, bain froid, puis après ça, on rentre à la maison. Tu sais, comme les chefs d'entreprise.
OK. Écoute. J'aime le comparatif.
Antoine. Attends, Antoine, t'es un chef d'entreprise maintenant, non?
Avec ton érablière. Un peu plus, là, mais je l'applique pas assez à mon goût.
OK. Hey, les gars, on va parler du manque de production des attaquants du Canadien. J'en pose une petite torieuse. Je vais commencer avec Alexandre là-dessus. Est-ce que le manque de production des attaquants, c'est passager ou c'est le reflet de la réalité? Et là, je vais vous donner quelques chiffres. Suzuki, 8 buts. Caulfield, 7. Monahan, 9. Newhook, qui est blessé malheureusement, 7. Gallagher, 5. Slavkovski, 2. Est-ce que j'ai besoin de dire 1 de la part de Josh Anderson? Est-ce que ça, c'est juste un mauvais moment ou c'est la réalité du potentiel offensif des attaquants, Alexandre?
Ben moi, je le maintiens depuis le début de la saison. C'est le reflet de la réalité, sauf pour deux joueurs que je crois qui devraient être plus productifs. Caulfield et Slavkovski ont clairement un potentiel supérieur en termes de réussite à ce qui est démontré présentement, là, puis leurs taux sont super faibles, leurs pourcentages sont anormalement faibles là, de réussite. Mais eux, je pense qu'ils ont vraiment un potentiel plus élevé que ça. Les autres, tu sais, il y a beaucoup de joueurs dans ce groupe-là qui sont des gars, tu sais, qui ont déjà fait, mettons, des 20-25 buts Anderson, par exemple, Gallagher s'est même rendu à 30, je pense, oui. Ouais. Gallagher a déjà atteint 30. Ouais. Tu sais, Monahan, bon, c'est des joueurs qui vieillissent, puis tu t'attends à une certaine diminution. Je m'attends pas à ce que ces gars-là dépassent nécessairement 20 buts, puis il y en a qui sont à peu près sur ce rythme-là présentement dans ce groupe-là. Suzuki, je sais pas, des fois, quelles sont les attentes des gens pour des buts marqués, mais le plus qu'en carrière, c'est 26, et c'est un joueur très stable. Suzuki, là, il est en 60-65 points depuis 3 ans.
Puis il est encore
Puis, ben, tu sais, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est ça son rythme? Est-ce que c'est ça? Il y a peut-être un plafond un petit peu plus élevé, mais pas non plus démesuré, là. Ce sera pas un joueur de 100 points dans la Ligue nationale qui marque 40 buts, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, c'est assez réaliste, puis c'est un petit peu ce que j'approchais aux Canadiens dans le dernier repêchage, c'est d'être allé avec un défenseur plutôt qu'un attaquant au premier choix. C'est qu'à long terme, puis j'ai posé la question 12 fois sur ce balado-là dans les 2 dernières années, c'est quoi ton top 6 en 2025-2026? Puis pour moi, les chaises ne sont pas toutes remplies encore. Okay. Et il manque de talent élite en attaque. OK, Caulfield a une mauvaise saison, mais je pense qu'il a le potentiel d'être un attaquant élite là, dans les 30-40 meilleurs de la Ligue. Mais il en manque d'autres. T'sais. Puis Doc est très bon. Moi, je trouvais qu'au début de la saison, c'est le meilleur joueur du Canadien. Mais là, écoute, là, il va avoir joué 2 matchs en genre 20 mois quand il va revenir au jeu. Écoute, je m'attends à une période d'adaptation plus longue que ce qu'on peut imaginer. Enfin, il va falloir comme on est. Les Canadiens trouvent des solutions pour amener des vrais marqueurs au sein de l'équipe.
OK, mais il n'y a pas des circonstances atténuantes pour l'attaque du Canadien, pour les attaquants. Je vais les dire, puis Guillaume et Antoine, je vais vous entendre là-dessus. Le fait qu'on écope de plusieurs pénalités, ça donc, ça vient déstabiliser le momentum offensif, et le fait qu'il y a eu des blessés en quantité industrielle. Est-ce que ça vient pas un peu déstabiliser une production offensive potentielle?
Ouais, les pénalités...
Jumelées au manque de production en avantage numérique aussi. Mm-hmm.
Ben, les pénalités, ça s'est quand même calmé par rapport au début de saison. Je sais que c'est un gros problème en début de saison, mais ça a quand même ralenti. La blessure de Doc, par contre, oui, moi, je crois que ça a assurément un effet. J'identifie lui en particulier. Tu sais, je veux dire, oui, Alex Newhook allait bien avant de se blesser, mais bon, on l'a pas encore vu sur du long terme. Mais Kirby Doc, tout ce qu'on voit, ce qu'on avait vu l'an passé avant qu'il se blesse et ce qu'on a vu cette année avant qu'il se blesse, c'était un gars qui allait être capable de transporter un trio, qui allait être capable de hausser le niveau de d'ailiers qui sont moins bons. Tu sais, est-ce que Slavkovski, oui, ça va mieux depuis 2-3 semaines, mais est-ce qu'il y aurait eu autant de difficultés en début de saison s'il avait pu rester avec Doc tout le long? On ne le saura jamais, mais je veux dire, clairement, il y avait cette drive-là, excusez-moi le terme, pour vraiment transporter son trio. Il était fabuleux en protection de rondelles, tout ça, des bonnes mains. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fait mal et je rejoins Alex sur l'an prochain. Je veux dire, ça se peut qu'on verra pas tout de suite la version A de Kirby Doc parce que c'est ça.
C'est des longues absences. Oubliez pas, là, il a quand même été absent. Ça, il a quand même été absent la saison dernière de longs moments. Puis il a déjà été blessé aussi plus tôt dans sa carrière de longs moments aussi. Là. Mm-hmm. C'est plate, là, c'est vraiment
plate. C'est beaucoup de hockey manqué, ça c'est clair. Antoine, toi, le potentiel des attaquants, comment tu le vois? Est-ce que tu penses qu'on a déjà atteint un plafond ou non? C'est des circonstances qui font en sorte que les attaquants ne marquent pas?
Ben, tu sais, il y a beaucoup de vétérans aussi dans cette équipe-là. Est-ce qu'on a atteint le potentiel? Gallagher, oui. Dvorak, oui. Armia, oui. Josh Anderson, oui. Monahan, oui. Tu sais, quand on regarde, c'est qui ça. Les jeunes dans cette équipe-là, si on qualifie Evans, ouais, 27 ans, est-ce que c'est encore un jeune? Pas sûr. Tu sais, donc, tu l'inclus dans le game de vétérans. Est-ce qu'il a atteint son plein potentiel jusqu'à présent? J'ai envie de te dire que oui. Donc, c'est qui les jeunes dans cette équipe-là? On rajoute Ilonen là-dedans. Après ça, c'est Slavkovski, Suzuki, Caulfield. Puis l'année prochaine, puis Suzuki, pour moi, c'est plus un jeune.
On pourrait mettre Newhook aussi là-dedans, par exemple.
On peut mettre Newhook. Donc, est-ce que ces gars-là, ils ont tous atteint leur plein potentiel? Probablement pas. Moi, je pense sincèrement que Suzuki, c'est à pas être un joueur de 80 points par saison. Mais il l'a pas encore atteint. Puis quand je regarde, je compare avec d'autres joueurs. Par exemple, Bo Horvat est en voie de connaître une saison de 80 points. Mais ça fait quand même pas loin de 10 ans qu'il est dans la Ligue, Beau. Donc, ça prend un certain temps avant que les joueurs deviennent de meilleur en meilleur et puis continuent de leur progression. Mais oui, les jeunes n'ont pas plein leur plein potentiel, les plus vieux complètement. Puis tout le monde, tous les vieux, jouent probablement un trio en haut de ce qu'ils devraient jouer. Bon, à part Sean Monahan, mais Anderson devrait jouer sur la 3 ou la 4. Dvorak, ça devrait être ton centre de quatrième trio. Gallagher, il est correct en troisième ligne. Ah, tu sais, il te manque un deuxième trio, en fait. C'est ça qui manque. Puis, vous aviez raison de mentionner la blessure de Dak. Pour moi, c'est ça qui apportait. Il amenait de la constance sur un deuxième trio, puis de la créativité, chose que on voit pas nécessairement avec Jake Evans. Il y a d'autres qualités, mais on voit pas cette créativité-là où il peut travailler tout seul en fond de patinoire, en ouvrant des espaces pour les autres. Il est pas capable de faire ça. Mais il y a d'autres qualités, mais c'est pas son forté. Donc pour moi, où tout le monde joue trop dans l'alignement et il te manque d'ajout. Puis tantôt, on mentionnait, est-ce qu'on aurait dû prendre Ryan Backer ou pas à la place de prendre un attaquant? Pour moi, je trouve que tu prends toujours le meilleur joueur disponible. Puis à ce moment-là, j'imagine qu'ils ont statué que c'était ce joueur-là. Mais quand David Savard va s'en aller, ça va te prendre un défenseur droit de premier plan. Puis c'est probablement ce gars-là qui va être capable de le remplacer rapidement, peut-être pas. Mais il va avoir déjà plusieurs saisons professionnelles. Parce que là, il joue pas dans le junior. On parle de professionnel en Europe. Donc pour moi, il va probablement s'intégrer très rapidement à la formation quand ça va être le temps.
Et si on regarde que les attaquants ont de la difficulté présentement à avoir une certaine production offensive, par contre, en défensive, les défenseurs marquent beaucoup de buts. On a l'impression qu'on les voit plus parce que les attaquants marquent tellement pas. Est-ce que ça, ben Alexandre, je tourne la question, est-ce que ça aussi c'est juste passager ou ça va être quelque chose qui sera coutume?
Ben, je pense qu'il y en a qui ont plus de points qui devraient présentement chez les défenseurs, mais il y a des défenseurs offensifs dans l'organisation.
Parce que là, tout le monde parle de Schrubel, là, c'est deux buts en trois matchs.
Non, mais c'est un défenseur défensif à la base.
Tu dis bon, là, mais c'est deux buts en trois matchs.
C'est un défenseur défensif, tu sais. Mais tu sais, un gars comme Michael Matheson, il a vraiment des instincts offensifs. Il les a depuis qu'il est midget, là. Il a toujours été un défenseur.
C'est un attaquant qui a quelques instincts défensifs à l'occasion.
C'est correct. Non, mais je suis pas tout à fait en désaccord avec ce que tu dis. Mais si on regarde l'organisation, puis il y a beaucoup de défenseurs à caractère offensif. Tu sais, Justin Barron, c'en est un, à caractère offensif. Puis même si on descend en bas, Mayhew, c'en est un. Hudson, c'en est un. Même Trudeau, il y a quand même un certain profil offensif. Il y a beaucoup de défenseurs offensifs dans l'organisation. Puis c'est correct parce que le Canadien, Saint-Louis l'a déjà dit, là, les positions, ça se redéfinit présentement. Puis on pas de temps. Ben des fois, ils ont des problèmes quand les défenseurs pinch, là, s'en vont jouer en attaque, là. Mais c'est quand même encouragé les sorties de zone plus dynamiques, là, mettons, que ce qu'on voyait il y a comme 10 ans. Alors, c'est un petit peu normal que les défenseurs fassent plus de points. Puis les défenseurs, c'est quand même beaucoup aussi chez le Canadien. Donc, mais je suis pas tant épaté. Tu sais, l'échantillon pour Strobel, sérieux, il est vraiment comme très, très petit. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, même Kovacevic, il y a eu des bons moments aussi. Il marque.
En fait, Kovacevic, on retient ses buts parce qu'il y en a 4, mais il y a aussi 5 points dans sa saison.
C'est ça, exactement.
Il va finir l'année avec 15 points à ce rythme-là. Donc, peu importe comment c'est réparti après ça, c'est un joueur qui appuie énormément.
Mais est-ce qu'à long terme, il va y avoir beaucoup d'attaques qui viennent de la défense chez le Canadien dans 2, 3, 4 ans? Je pense absolument. Là.
Oui, puis même Kaiden Goulet, c'est pas encore dégêné offensivement, mais il l'a en lui. Il a un bon tir, il a un bon coup de patin.
Reinbacher aussi est capable de jouer. Ce qu'on a vu au cas d'entraînement, lui, a un profil qui est vraiment capable de se porter en attaque.
Mais écoute, Antoine, c'est pas ça la nouvelle Ligue nationale de hockey avec une troisième vague quand c'est les défenseurs qui appuient l'attaque, qui viennent en support puis prendre un lancer dans l'enclave ou prendre un retour. J'ai l'impression que c'est ça maintenant la Ligue nationale de hockey.
Ben c'est clair. Puis c'est les défenseurs qui ont le plus de temps. C'est eux qui ont le plus de temps pour avoir de la glace gratuite finalement. Parce que quand t'es en fond de patinoire, généralement les équipes de la manière dont elles jouent, ils envoient tout le monde dans un quart de glace et t'as 5 joueurs qui t'enferment. Donc t'as comme pas d'espace pour travailler quand t'es un attaquant. Donc ce que tu fais, t'envoies la rondelle le long de la rampe, puis ça va chercher le défenseur, puis le défenseur, lui, après ça, il est en mesure de récupérer de l'espace et de générer de l'offensive. Mais pour moi, tu sais, quand je regarde la défensive du Canadien, je vois beaucoup de bons défenseurs de la Ligue nationale, mais je vois pas nécessairement je parle des jeunes, pas nécessairement de Matheson, mais je vois pas un cheval de course qui va être ton Quinn Hughes ou ton Cale Makar pour le moment. Je pense pas que l'organisation... Peut-être ils l'ont drafté, mais à date, il a pas joué dans l'équipe pour le moment, là, ce joueur-là.
C'est pas ça le rôle de Lane Hudson?
Il n'a pas joué dans l'équipe encore.
Dans l'équipe, mais j'ai l'impression que ce sont les visées qu'on donne.
C'est sûr, je pense, dans un monde idéal, le top scénario pour le Canadien, ça serait ça. Ça serait Quinn Hughes, mais la barre est quand même très, très... c'est très, très haut comme barre. Cela dit, si on parle de cheval comme tel, ben moi, mes yeux, c'est Kaiden Goulet. Pas en ce moment, mais c'est celui qui a le plus de qualité, qui a le plus de qualité d'ensemble pour devenir ce cheval-là qui va te donner 25 minutes.
OK. Est-ce que vous avez vu l'information qui disait que Kent Hughes voulait peut-être aller chercher Lane Hobson, avant la fin de la saison, lorsqu'il aurait terminé son université pour l'amener avec le Canadien? Comment vous voyez ça rapidement, Guillaume?
Ben, je veux dire, c'est sûr que si le Canadien est éliminé en fin de saison, ils auront rien à perdre, tout ça. Donc, peut-être. En même temps, faut modérer nos attentes. Là. Rappelez-vous, Sean Farrell, l'an passé, qui était également très, très bon au collège, tout ça, puis il est arrivé dans la Ligue nationale, puis il a été invisible pendant ses matchs qu'il a joué en fin de saison avec le Canadien. Donc, je veux dire, c'est correct, c'est de l'expérience, mais il faudra vraiment voir comment il va s'adapter. J'ai pas besoin de vous rappeler que c'est pas le plus costaud, donc ça va venir avec ses défis, mais en même temps, on verra bien. Peut-être que ce sera sa chance d'épater la galerie aussi.
Ben, il est pas costaud, mais tous ces facteurs d'équivalence sont exceptionnels. Ouais. Donc, quand on prend, mettons, l'historique des joueurs qui ont évolué dans le même circuit, au même âge, dans les mêmes conditions, puis qu'on regarde ce qu'ils ont produit dans la Ligue nationale, on peut quand même s'attendre à ce qu'il fasse une carrière dans la Ligue, au minimum. Après c'est son plafond puis son plancher. Ça, je pense que ça reste à être déterminé, là, mais tu sais, il y a du potentiel, mais je pense qu'il faut juste faire attention de s'emballer là, puis de penser à Quinn Hughes puis Cale Makar. Il y a quand même il y a plusieurs échelons avant de se rendre à Cale Makar.
Tout à fait.
Donnons-lui quelques échelons à monter avant de l'encenser à ce point-là. Mais moi, je pense qu'il y a un beau potentiel.
OK, hey, je vais entendre Antoine là-dessus. Quand tu as un jeune qui part d'université, qui s'en vient, déjà entamer sa carrière professionnelle, comment toi, tu perçois ça? C'est une bonne chose?
Ben, écoute, ça m'a toujours un petit peu dérangé qu'on donne l'autoroute à ces joueurs-là. Ça dépend lesquels. Par exemple, Quinn Hughes, nous, on l'a récupéré à Vancouver. Il est venu finir la saison. Il était tout de suite fort, bon. Il était prêt pour la Ligue nationale. Il y a eu un impact immédiat. Puis c'était un haut choix au repêchage. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on va chercher des jeunes, on leur déroule le tapis rouge pour qu'ils signent avec l'organisation. Alors là, t'as le directeur général. Alors, il l'emmène au plus beau steakhouse. Je te dis que c'est vraiment avec notre organisation que tu vas jouer ton meilleur hockey dans la Ligue nationale. Faut que tu signes avec nous autres. Tu sais, ils leur promettent plein d'affaires, puis les gars arrivent, puis il y en a qui sont tout simplement pas nécessairement de calibre. Ou ils jouent un peu, tu vois qu'il y a un petit potentiel, mais ils sont pas encore au niveau de la Ligue nationale. Puis moi, ça me dérange parce que il y a plein de gars dans la Ligue américaine que tu as drafté, que ça fait plusieurs années qu'ils se défoncent pour l'organisation, puis que parce que ces gars-là, il faut qu'ils choisissent, puis qu'on veut brûler leur première année de contrat pour qu'ils fassent un petit peu plus d'argent, ben ça me dérange que ces joueurs-là aient des laissés passer finalement par rapport aux gars qui ont été draftés. Puis ça, moi, je l'ai vécu là, quand j'étais dans la Ligue américaine. Là, t'avais en fin d'année, tu joues plus parce que t'as toujours du monde qui arrive de nulle part. Puis tu les regardes jouer, puis ils sont pas mauvais. Mais tu sais, j'enverrais pas ma mère pour leur faire un beau petit dîner. Puis tu sais, je vendrais pas ma mère pour ces gars-là finalement.
J'espère, Antoine.
Ne vends pas ta mère, Antoine.
Ça arrive. C'est ça qui est. Mais en tant que joueur, moi, ça me tapait sur les nerfs. Puis quand j'étais dans la Ligue nationale, je le voyais moins. Mais en Arizona, ma dernière saison, ils l'ont fait aussi pour des gars. Il y en a un qui était très bon, puis que. Il y a eu un impact, puis qui joue encore pour l'équipe. Il y en a un autre qui est arrivé, il a joué 4-5 games, puis après ça, bon, c'était fini. L'année d'après, il a rejoué deux matchs, puis sa carrière dans la Ligue nationale avait été finie. Mais il jouera plus finalement.
Ouais, mais souvenez-vous de la réaction de Martin Saint-Louis l'année dernière quand il a rappelé Sean Farrell, puis on a dit
c'est une question pour Kent. Saint-Louis était incapable d'expliquer la décision pour laquelle Sean Farrell jouait.
Il répondait
c'est une question pour Kent, et c'est ça. Je pense que ça disait long. Ben c'est ça, exact. Ça disait tout sur
le. Ça veut dire que je le voulais pas là. Mais je peux pas vraiment vous le dire parce que sans ça, je coupe l'herbe sous le pied de mon boss.
Ben c'est sûr aussi que comme coach, c'est difficile à justifier auprès de tes propres joueurs parce que t'en tires un d'alignement si tu le rentres dans l'alignement normalement.
Ce qu'on comprend, c'est que Kent Hughes a vendu sa mère, c'est ça?
Ben écoute, c'est probable.
Puis dans ce cas-là, en plus, je me souviens, le Canadien avait gagné la veille en tir de barrage à Buffalo, tout ça. Donc, tu sais, en plus, l'entraîneur devait casser sa formation gagnante.
Faire rentrer Sean Farrell.
Mais le Canadien l'a fait quand même assez souvent récemment. Il l'a fait avec Jordan Harris, l'a fait avec Ryan Peeling. Il y a quand même une certaine historique.
On est dans une situation
où on parle-tu de joueurs qui ont été drastique. On parle pas des gars qui ont eu des gros impacts non plus.
T'étais pas là, Antoine, mais Ryan Poehling, le premier match et l'été qui a suivi, ça a été quelque chose.
OK, hey, les gars.
Y en a-tu fait d'autres?
Non, c'était pas mal. One hit wonder dans le cas de Ryan Poehling.
Mais par contre, pour Jordan Harris, au bout du compte, ça aura servi. En plus, il a pratiquement court-circuité la Ligue américaine, tout ça. Et
joue du bon hockey.
Il joue du hockey très correct.
Il va être encore dans l'alignement, les gars. T'sais, mettons qu'on parle de lui. Est-ce qu'il va être encore dans l'alignement, Jordan Harris, quand il revient en santé? Pour moi, en ce moment, il n'y a pas de place pour lui dans l'alignement.
Mais tu sais, juste revenir sur Poehling, là. J'avais interviewé Bergevin l'automne suivant, là, pendant le camp d'entraînement. Puis il était comme, oh my God, quel monstre on a créé. T'sais, dans sa tête, tu vois, là, ça va délinguer. Quel monstre on a créé. Puis il se doutait bien là, qu'il allait le renvoyer aux mineurs à la fin du camp. Puis Poehling avait vraiment mal pris son renvoi. Là, puis ça avait même été documenté.
Il faut juste rappeler une chose, c'est que Poehling avait connu quand même un bon camp d'entraînement. Il y a une commotion cérébrale dans un match dans les Maritimes parce que la bivitrée était quand même très, très solide. Ouais. Il y a une commotion cérébrale.
Mais c'est quand même tombé de haut, puis ça a été difficile de réaligner après ça à Laval.
Bon, les gars, moi, je reviens toujours avec Kent Hughes qui nous disait, et Jeff Gorton qui nous disait, l'important, c'est de jouer des matchs significatifs au mois de mars. On se garde ça comme objectif en tête lorsqu'on fait les balados. Et le Canadien, présentement, est à 5 points d'une place comme meilleur deuxième détenu par les Hurricanes de la Caroline. Mais là, cette équipe-là, le Canadien de Montréal, entreprend un dernier match à domicile face aux Islanders de New York avant d'y aller avec une séquence de 7 matchs sur la route dans le temps des fêtes. Donc, Winnipeg, Minnesota, Chicago, Caroline, Floride, Tampa Bay, Dallas. Est-ce que le Canadien va s'en sortir? Guillaume, je commence avec toi.
Ben, je veux dire, pas basé sur le fait que c'est sur la route ou pas, parce que le Canadien, jusqu'ici cette saison, ça va plutôt bien.
Mais
sur
t'as
la
des
route.
Méchants clubs là-dedans, là.
Ben, c'est ça, exactement. C'est plus une question de qualité de l'opposition. Quoique le premier volet du voyage, quand même.
Chicago-Minnesota, c'est jouable. Là.
Ben, c'est ça, exactement. Quoique le Minnesota, faudra voir avec le nouvel entraîneur, mais bon, ça reste que c'est ça. Le premier volet du voyage, ça va. Le deuxième volet sera peut-être un petit peu compliqué, par contre. C'est sûr que c'est ça. Je veux dire, depuis quelques années, ce fameux trio-là de Floride-Caroline, c'est tout le temps. Ça donne beaucoup de difficultés aux Canadiens. Le Canadien est incapable de battre le Lightning. Alors, c'est ça. Je pense que c'est plus après Noël qu'il faudra surveiller.
Ça peut décrocher, là.
C'est quatre matchs en six jours aussi, la séquence après Noël. Donc, les deux Floride, la Caroline et Dallas, quatre matchs en six jours avec un gros déplacement. Placement vers Dallas, tout ça, ça sera pas exactement facile.
Parce que moi, je reviens, tout est dans tout, hein, parce qu'on se parle du manque de production des attaquants. Tu t'en vas dans une séquence de matchs où tu as 7 matchs sur la route et tu dois gagner des matchs pour t'assurer d'avoir encore des matchs significatifs au mois de mars. Va falloir que quelqu'un se mette à marquer des buts. Là. C'est le fun, Josh Anderson, puis tout le monde l'applaudit, on le trouve fun, là, mais il va falloir qu'il marque, là. Parce que s'il marque pas, ça peut pas fonctionner.
Ben, Caulfield aussi.
Il va falloir que Caulfield marque. Il va falloir quelqu'un qui commence à connaître une séquence. Parce que si on disait que Josh Anderson, c'est un gars de séquence, on la cherche encore, là, mm-hmm. Il n'est pas là.
Oui.
Fait que donc, comment tu le vois, toi, Alexandre, ce voyage-là?
Ils seront pas largués. Tu sais, la chaîne, elle débarquera pas, mais est-ce qu'ils vont rattraper les 5 points? Non. Tu sais, moi, je m'attends pas. Au mois de janvier, mettons au 1er janvier, je m'attends à ce que le Canadien soit comme à 7 points, 8 points, 9 points.
Ben, 8 t'es largué. Tu commences à être largué. Là. T'es pas les Oilers d'Edmonton quand même. Là.
Non.
C'est les Oilers, ils étaient à 8, ils en ont gagné 8 dessus.
Mais tu sais, je les vois pas combler l'écart, mais je les vois pas non plus en perdre. Écoute, là, ça serait archi décevant qu'en perde. C'est comme les séquences qu'on a vues dans les 5 dernières années, là, d'en perdre 8 de suite, là, 5 fois. Là.
Dont une aux fêtes l'année passée.
Ouais, justement. C'est ça, tu sais. Puis même l'année d'avant aussi, là, il y avait eu comme toute la COVID là, en Floride ou à Caroline, puis il n'y aurait pas dû jouer. Finalement, ils ont joué à genre 15 joueurs. Là, ouais. Mais je les vois pas être largués à ce point-là. Je pense qu'ils vont continuer de jouer du hockey compétitif. Mm. Puis en fait, c'est un bon test parce que moi, ce que je disais au début de l'année pour cette saison-ci, il va falloir qu'ils trouvent des moyens d'arrêter les longues léthargies. On aurait pu en avoir deux plus tôt cette saison. Les deux fois, ils ont réussi à la couper. Puis je pense qu'un des objectifs de ce voyage-ci...
La pire, c'est quoi? C'est quatre?
C'est quatre, ouais.
Quatre de suite?
Ouais. Mais, tu sais, Je pense que là-dessus, il s'améliore, pour vrai. C'est, je les vois pas comme avoir une super grosse léthargie là, d'ici le 1er janvier.
Pour mémoire, là, l'an passé, le Canadien avait perdu les trois matchs avant Noël. Ça, ouais. C'était donc Arizona, Colorado, Dallas. Et après, ben, tu sais, c'était des matchs serrés, mais là, après les fêtes, c'est là que la chaîne avait débarqué. C'était défaite de 4-1 à Tampa, de 7-2 en Floride, ouais. De 9-2 à Washington. Ouch. Et de 6-3
à Nashville. Tout le monde s'est blessé à un moment donné là-dedans, le Caulfield, puis Slavkovski sont partis. Là, ouais.
Ouais. Antoine, comment tu vois le prochain périple du Canadien?
Ben, je le vois avec un bon départ, en espérant qu'ils gagnent leurs deux premiers matchs de ce périple-là. Après ça, ça risque d'être compliqué. Mais le Canadien a montré cette année qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une surprise. Ils pouvaient en créer, justement. Donc, moi, je vois pas ça forcément négativement. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment les jeunes évoluent dans la saison. En début de saison, on battait des bons clubs. Là, tu vas jouer contre des équipes qui se préparent ou qui pensent déjà à comment on va s'améliorer au marché des échanges, puis comment on va faire pour se rendre jusqu'à la première ronde des séries. Parce que après ça, c'est la Caroline. La Caroline, c'est une équipe qui essaie de survivre en ce moment, puis que c'est pas forcément évident. Après ça, t'as la Floride puis Tampa, deux équipes de premier plan, même si Tampa aussi, c'est pas le Tampa qu'on a déjà connu, mais eux autres veulent s'accrocher, puis leurs meilleurs joueurs, on a juste à regarder comment ils ont joué hier avec Steven Stamkos qui veut pas vieillir. Puis après ça, tu t'en vas jouer à Dallas, qui pas écrase tout le monde dans l'Ouest, mais c'est une grosse puissance de l'Ouest. Donc, ça sera pas évident, mais ils sont pas à l'abri d'une surprise, puis on sait jamais, tu sais, la période du temps des fêtes, généralement, les bonnes équipes, peut-être, des fois, abusent des bonnes choses, des beaux petits, des toasts au foie gras, un peu de champagne, avec maman, puis, écoute, c'est souvent ça durant le temps des fêtes. Fait que, est-ce que le Canadien pourrait être assidu, puis être assidu dans sa préparation pour profiter de ces moments-là? Écoute, l'avenir nous le dira.
Antoine, as-tu déjà abusé pendant le temps des fêtes? Ou t'as-tu déjà eu des coéquipiers, mettons, qui sont revenus du temps des fêtes avec 5 livres en trop ou 10 livres en trop?
C'est oui, j'en ai déjà vu. Puis écoute, c'est y en a qui faut qu'ils fassent attention, c'est clair. Y en a qui peuvent prendre 10 livres en 3 jours, c'est pas compliqué. Mais j'ai déjà vu des coéquipiers qui l'avaient échappé. Mais moi, dans mon cas, c'était plus à Thanksgiving que ça pouvait déborder. Mais je me disais que toute la ligue le faisait. Pour une journée, c'était quand même pas si pire, mais un peu plus de dinde, un peu plus de sauce brune, puis tout le kit. Puis souvent, quand il m'est arrivé une fois où Dan Amos, il avait fait un punch au whisky, puis ça goûtait juste le jus. Puis on jouait le lendemain, puis j'étais pas fier de ma journée de préparation d'avant-match, mettons. Mais ça avait quand même bien été. Mais t'en colles pas beaucoup des journées comme ça.
Bon, écoute. Le punch au whisky qui goûte le jus.
Le punch de Dan Amos.
OK. Non,
c'était tellement bon, les gars. Je pense que je vais vous en concocter un pour les fêtes. Parce que vous allez voir, ça fonctionne non. Bien, ça met d'ambiance.
Ouais. Juste avant un balado.
Ouais, on va faire un balado après.
C'est ça qui est charme.
Hey, on va s'arrêter là-dessus. On va faire une très courte pause pour retour. On va parler de Martin Saint-Louis. Parce que dans la presse, il y avait un texte de Nathalie Collard qui disait « Martin Saint-Louis, mon gourou ». OK. Je le sais que là, si vous êtes à l'écoute du balado, vous allez dire « Est-ce qu'elle se moque de Martin Saint-Louis? » La réponse est non. Je vais vous lire juste la première ligne du texte. Moi, mon gourou, celui qui m'a aidé à traverser 2023, c'est Martin Saint-Louis. Fait que donc, on va se parler de Martin Saint-Louis. C'est un gourou. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 24 de ce vendredi 15 décembre. Nous avons Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Avant d'aller à la pause, je vous citais la première ligne du texte de Nathalie Collard qui disait « Martin Saint-Louis, mon gourou ». Antoine, je commence avec toi. Est-ce que Martin Saint-Louis, c'est un gourou?
Ben écoute, pour moi, quand je pense à gourou, des fois, je pense à c'est péjoratif un petit peu.
Oui, oui.
Je pense que tu sais ça peut être vu d'une manière négative. En tout cas, moi, c'est à premier abord, c'est comme ça que je le vois. Mais je peux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire parce que Martin Saint-Louis, c'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Puis, on n'est pas habitué d'avoir quelqu'un dans le paysage public ou médiatique qui a une prépondérance qui est partout aussi positif. Et pour moi, c'est un gros impact. Puis je comprends ce qu'elle veut dire parce que c'est le genre de personne que que non, on se fait jamais se faire dire non, ben ça le décourage pas, il continue, il se décourage pas. Puis quand tu côtoies cette ambiance là ou cette ce genre de personne là, ben ça se frotte sur toi, hein, puis ça tu l'imprègnes, puis souvent tu l'incorpores. C'est pour ça que dans des équipes, souvent, ben si t'es un joueur de quatrième trio, ben tu peux pas vraiment être un gars maussade, puis tu sais, avec un gars qui est en dépression tout le temps, là. Il faut que tu sois pas en bout en train, mais ça fait aussi partie de ton rôle. Puis que tu sois premier trio ou quatrième trio, si tu amènes ça dans l'équipe, ben généralement c'est le genre de coéquipier que tu veux avoir, parce que c'est pas évident une saison de la Ligue nationale. Puis il faut que tu aies des gars qui soient capables de relativiser les choses, tu sais, d'être conscient de la situation, mais aussi de bien, tu sais, de penser à autre chose, puis d'amener une atmosphère un peu plus légère dans la chambre. Puis ça, c'est important, parce que on le sait tous, je vous en ai parlé tantôt, une séquence de 8 défaites, t'as besoin de ces gars-là en ce moment, t'as besoin de cette joie de vivre là. Puis Martin Saint-Louis, ben même si c'est un entraîneur, il l'apporte. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je le prends, son commentaire.
Mmh. La dernière en liste fait référence à Josh Anderson, quand il a dit, parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'à un moment donné, tu songes à mettre Josh Anderson dans les estrades, puis il dit tant aussi longtemps que tu t'aides, je vais t'aider. Si tu t'aides plus, ben moi...
Si t'abandonnes sur toi...
Si t'abandonnes je vais abandonner sur toi, tu sais.
Mais il y en a sorti une autre bonne, hein, sur Anderson aussi, hein, quand il s'est parlé des rouleaux de papier de toilette, mais là, celle-là, je pense que c'était juste en anglais, mais il expliquait en gros que quand un joueur comme Anderson en léthargie, quand tu regardes le jeu, t'as l'impression de regarder à travers un rouleau de papier de toilette. Tandis que quand ça va bien, ben, t'as des yeux tout le tour de la tête. Et puis, ben, c'est ça, j'avoue que c'est pas mal la première fois que j'ai un rouleau de papier de toilette revenait dans un point de presse de coach, je pense. Mais, c'est la première fois, mais il est très fort sur ces images-là. Ça,
moi, je vais vous dire, sincèrement, je me souviens, la première fois qu'il est rentré, puis qu'il a rencontré les journalistes, moi, personnellement, j'aurais pris ma poche de hockey, puis j'aurais été joué. Bon, il m'aurait dit, tu joues pas, c'est correct, mais c'est le genre de choses, moi, qui me parle beaucoup. Quand tu as un coach qui est un petit peu plus psychologue, qui te donne des images assez claires, que tu comprends le principe, qu'il faut que tu sois, que tu fasses partie d'un processus qui va faire en sorte que tout le monde va gagner. C'est sûr que souvent, on s'est un peu payé sa tête avec ta game dans la game, avec la chaise.
Ça y a valu un beau contrat de publicité avec Hydro-Québec, par exemple. Donc.
Mais le pire, c'est parce qu'il a tellement raison. Il a raison quand tu prends juste le temps de réfléchir. Pis c'est drôle parce que dans le texte de Nathalie Collard, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ses expressions et elle amène une vision différente de la perception qu'on doit avoir des citations. Je veux savoir, Guillaume, c'est la première fois que tu dois composer avec un coach qui va avec des expressions comme ça, que tu dises de psychologie.
Du canadien.
On est loin de Michel Therrien, là.
C'est ça, exact.
Il y en a plus.
C'est ça, il y en a plus au football, sinon au hockey, où on sait que Bob Hartley, entre autres, était fort là-dedans, mais il a jamais coaché à Montréal. Mais oui, à Montréal, c'est sûr que Saint-Louis, dans une classe à part de communicateur, si on recule à ce qu'on a connu jusqu'ici comme entraîneur-chef, je peux pas parler pour les années de Mario Tremblay ou de Jacques Demers, là, parce que je couvrais pas, mais disons que de ce que j'ai connu jusqu'ici, assurément que c'est une classe à part de communicateur. Moi, il y a une petite chose qui m'a fait sourire aussi tantôt, après l'entraînement, on parlait à Jesse Ilonen, et question très banale sur ce qu'il doit faire là, pour assurer sa place dans la formation, assurer sa place dans le troisième trio, et là, j'écoutais sa réponse, j'avais l'impression d'écouter Martin Saint-Louis parler, parce que là, il se mettait à parler de jeu sans la rondelle, des détails à maîtriser, de rester balancé sur la patinoire, d'aller aux bons endroits quand t'as pas la rondelle, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il nous récitait tout ce que Saint-Louis nous donne souvent dans ses réponses. Le fait qu'Ilonen a parlé comme ça, bon, regarde, ça vaut ce que ça vaut, là. Il est pas obligé de tout nous dire, là, en entrevue. Mais ça me laissait quand même croire que en quelque sorte, il doit croire en ce que...
Mais c'est bon signe quand il y a quelqu'un qui dit ce que le coach raconte dans le vestiaire, c'est parce que le message passe.
Ben, c'est ça, ce que ça me laissait croire avec lui. Cela dit, bon, c'est un joueur, c'est une situation, ça veut pas dire que c'est de même avec tout le monde, il faudra voir, mais dans ce cas-là, en tout cas.
Alexandre, parle-moi du gourou Martin Saint-Louis.
J'ai un million de choses à dire là-dessus. D'abord, je pense que tu aurais pu faire le club, mais ça aurait été une question pour Kent Hughes.
Ah oui! C'est ça, exactement.
Non, en fait.
Il aurait mis une balance sur le bord de la chambre et revêt. Nope, tu rentres pas ici.
Ouais, t'aurais pu dire c'est Thanksgiving.
Thanksgiving, ouais, non.
Non, ben oui. Ben, d'abord, le texte d'Anthony, c'est pas du tout cynique, là. S'il y en a qui pensent que c'est cynique, non. Pas du tout, là. Je veux dire, au contraire, c'était vraiment un texte très intéressant. Petite anecdote, ma conjointe est la directrice de Nathalie, et hier, comme cadeau de Noël, elle lui a donné un chandail avec la citation l'action de Martin Saint-Louis t'amène la game, ta game à la game.
Ah oui.
C'est quand même assez, assez cute. Moi, je le sais où est-ce qu'il va en venir avec ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand Martin Saint-Louis est arrivé à Montréal, c'était quand même un entraîneur recru. Il avait été comme adjoint dans le Bantam là, ou dans le Pee-Wee, ou en tout cas, il avait coaché ses fils.
C'est quand même un membre du temps de la renommée. Là.
Oui, mais il n'y avait pas écoute, c'est pas la même chose, gérer puis jouer.
Okay? C'est quand même. Alors,
demandons
non, non, gérer du monde, c'est différent. Okay? Et là, il devenait nouveau gestionnaire. Puis je l'avais raconté, je pense c'est soit avec toi, Guillaume, ou c'est avec peut-être Simon Olivier.
Je pense que c'est
Simon Olivier. Donc, l'automne qui a suivi son embauche, puis on a fait une entrevue de gestion. 45 minutes juste sur quel type de gestionnaire il était. Puis il était très candide de vouloir dire, quand je commence là-dedans, là, j'ai jamais géré des adultes de ma vie, j'apprends. Puis il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais pour t'inspirer? Il dit, moi, là, je passe ma journée, là, soit à lire comme des trucs de gestion, là, des livres de gourou de marketing, justement, ou de psychologie, ou bien j'écoute des TED Talks, là, tu sais, des... C'est quoi en français? Des TED Talks, des séminaires...
Des conférences,
ouais. Exactement, tu sais. Puis il dit, là, j'écoute ça, puis je prends des notes, t'sais. Puis après ça, j'essaie de voir comment je peux amener ça dans le vestiaire. Puis il dit, je médite, mais genre, tu sais, je réfléchis beaucoup à tout ce que je lis, à tout ce que je vois, juste une éponge un petit peu là-dedans. T'sais. C'est assez intéressant parce que ce qu'on voit, en fait, c'est comme un gestionnaire se développer en direct sous nos yeux. T'sais, on peut quasiment essayer de deviner c'est quoi les lectures qu'il a faites comme dans la dernière semaine. C'est quand même intéressant. T'sais, ça nous montre que c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui a soif d'apprendre, qui a soif de mettre en application ces concepts-là. C'est quand même, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est passif, c'est pas quelqu'un qui s'assoit sur, ah, oh, moi, ça fait 20 ans.
Ben non, il a dit, t'es patient agressif.
Ben, ça, non, mais ça, c'est intéressant, tu vois. J'ai compris où est-ce que ça en allait avec ça, tu sais, c'est-à-dire, à un moment donné, faut agir, tu sais, on a la nécessité d'agir là-dedans. C'est juste, il utilise des termes, bon, un petit peu différents pour y arriver. Mais c'est intéressant de voir comme c'est quelqu'un qui prend son rôle de coach au sérieux, qui réfléchit, qui doit réfléchir. Je suis certain, tous les soirs, avant de se coucher jusqu'à 3h du matin, il doit lire des choses comme ça. Tu sais, il doit essayer de se trouver des concepts. Mais c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Puis honnêtement, je trouve ça, c'est le mot, c'est cute qui me fait entendre. C'est pas cute, mais c'est sympathique de voir, en fait, un gestionnaire se développer comme ça, être aussi passionné, être aussi pris par sa job, tu sais, vouloir apprendre autant, vouloir communiquer autant. Puis, ce que je voulais dire tantôt par rapport au passé, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui font juste répliquer ce que leurs anciens entraîneurs ont fait dans le passé. Mmh. Il y a beaucoup de... On en a vu plein, la génération des Babcock, Tortorella, ben c'est quand même l'héritage direct des coachs des années 70-80. Il n'est pas comme ça. Il est clairement plus progressiste que ces coachs-là. Puis je pense que ça, c'est justement à cause de ce côté philosophique-là.
OK. Antoine, toi, comment tu vois ça? Parce que tu as joué dans la Ligue nationale de hockey.
Moi, j'adore. J'adore parce que j'ai eu trop de coachs dans la Ligue nationale qui pensaient pas à comment t'améliorer. Dans leur façon de penser, c'était... ce que j'ai devant moi, c'est ce que j'aurais toujours. Je peux pas trouver un moyen d'améliorer mon joueur. Puis il y a pas tout le monde, tu sais, ça peut paraître tellement idiot là, ce que je dis là, mais c'est la réalité. J'ai eu des coachs des fois qui, dans leur tête, ils t'avaient étiqueté joueur de quatrième trio, impossible de monter les échelles. L'échelle, tu sais, par rapport à ça. Si j'avais, tu sais, mettons, j'ai commencé dans la Ligue nationale avec Lindyrov. Lindyrov a cru en moi. Puis il voyait que j'avais une marge de progression. Si j'avais eu Travis Green pour commencer ma carrière, j'aurais jamais joué aussi longtemps dans la Ligue nationale. J'en suis convaincu parce que je l'ai vu comment il agissait avec les autres. Puis tu sais, il y a des qualités là, mais c'était pas cette qualité-là. Pour moi, c'était pas sa meilleure. Lui, dans sa tête, t'arrivais comme ça, puis c'est ça que t'avais. Mais en Martin Saint-Louis, moi, ce que je vois, c'est cette faculté de voir en quelqu'un ce qu'il peut devenir, puis de lui donner la chance de devenir. Puis on l'a vu, sa patience qu'il a eu avec Slavkovski. Écoute, pendant plusieurs fois, moi, j'aurais été de la vieille école probablement, puis je l'aurais envoyé dans les mineurs. Mais la meilleure personne pour s'occuper de ces jeunes-là, c'est quelqu'un qui croit en eux, puis qui veut leur donner la chance de réussir, puis c'est Martin Saint-Louis. Puis l'avoir gardé dans la Ligue nationale à ce moment-là, ben ça fait en sorte que il est épanoui, le gars-là. Depuis le début de la saison à maintenant, l'effet Martin Saint-Louis, il est tellement ressenti. C'est à chaque fois que je le vois en confiance, patinant à travers la zone neutre, je vois Martin Saint-Louis là, en Slavkovski, je me dis, crime, il a fait un bon travail. Puis même pas juste lui, tu sais, le coach du développement, Nicolas, tu sais, qui a travaillé. Puis l'autre jour, j'étais à la pratique, puis je le voyais, il lui parlait tout le temps. Tu sais, c'est l'équipe d'entraîneurs au total, des gars que, tu sais, de Alex Burrows, Stéphane Robida, c'est des gars qui, tu sais, ils ont la même mentalité un petit peu que Martin Saint-Louis. Moi, je les ai eus comme coéquipiers, ben, comme coéquipiers ou partenaires d'entraînement, ces deux gars-là. C'est des gars ultra positifs. Puis c'est ça qui fait la force du coaching staff du Canadien dans un esprit de développement pour moi. Puis quand il a parlé de Slavkovski puis de Waze, pour moi, c'était tellement rafraîchissant parce que tu peux vraiment imaginer et dire « Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes? » Ben, tu recalcules, puis ah, on va te trouver une autre solution. Tous les chemins mènent à Rome, puis tu trouves ton moyen. Puis c'est Martin Saint-Louis sur tout craché, ça.
Guillaume, tu l'as ajouté quelque chose?
Hein? En fait, c'est quand tu parlais à Antoine des joueurs de quatrième trio qui sont étiquetés et qui font rien avec eux, ça me rappelait, puis on le voyait plus l'an passé, il le fait moins cette année, mais l'an passé, la quantité d'entraînement, surtout les entraînements de matin de match, où Saint-Louis restait avec les réservistes pour faire le temps supplémentaire et il restait avec Michael Pezzetta.
Tu vois jamais ça ailleurs.
Ben oui, c'est
Guillaume,
ça.
Guillaume, tu vois, le coach, d'habitude, n'est jamais sur la glace. Puis c'est vrai ce que tu dis parce que je l'avais oublié moi aussi.
Oui.
Puis c'est tellement vrai là.
Il restait longtemps avec lui puis nous autres on le sait parce qu'on l'attendait, les entraînements finissaient, on allait dans le vestiaire parler aux joueurs puis après ça il fallait attendre des fois 15 minutes avant que ça arrive.
Quand j'ai réplique pas les
je suis encore capable de jouer.
Ben c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même une belle attention justement à des gars que d'autres entraîneurs auraient pu simplement laisser à eux-mêmes puis tout. Donc tu sais, là-dessus, c'est ça, c'est effectivement une chose qui faisait de bien. Cela dit, c'est sûr que je pense plus les mois vont passer, plus Saint-Louis va avoir une obligation de résultat, autant collectif que individuel sur le développement des jeunes. Et c'est quand même, tu sais, faut quand même garder ça en tête. T'sais, oui, on parle beaucoup de la progression de Slavkovski, par exemple, dernièrement. Mais t'as quand même, tu sais, t'as des Arber Jacquet, par exemple, tu sais, qui ont dû prendre un pas de recul en ce moment. T'as Cole Caulfield qui connaît pas une année nécessairement à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, c'est sûr que si ces reculs-là s'accumulent, ben là, on va poser davantage de questions. Puis, ben, je veux dire, tous les beaux trucs de philosophie de vie, tout ça, c'est bien beau, mais tôt ou tard, tu sais, va falloir revenir à cette obligation de résultat. Mais là, en ce moment, regardez, disons que les attentes sont à un certain niveau et le Canadien n'est pas la seule équipe avec des joueurs en recul comme ça, là, donc c'est pas...
Mais d'après moi, avec Jacquet, il y a déjà eu quelques conversations avant qu'il arrive et qu'il l'envoie dans la Ligue américaine. Là. C'est peut-être que le kid comprenait pas nécessairement le message. Alexandre, penses-tu que ça, cette mentalité-là, cette façon de faire-là de Martin Saint-Louis, est-ce que c'est quelque chose qui s'essouffle?
Ben, il est nouveau dans cette profession-là. T'sais, il y a encore de la marge, je trouve, pour apprendre. Comme je disais tantôt, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans de carrière puis qu'à un moment donné, t'as l'impression d'avoir fait le tour du jardin 42 fois. Tu sais, lui, c'est la première fois qu'il fait le tour du jardin. Puis il est encore en mode découverte, tu sais. Puis il a eu plein d'obstacles depuis qu'il est là, mais il est pas né en série. Tu sais, il a pas fait plusieurs grandes étapes à travers lesquelles il est pas encore passé comme entraîneur. Fait non, je pense pas qu'on soit arrivé au bout de ça. En fait, ça serait décevant qu'on arrive au bout de ça comme maintenant.
OK, parce que là, les Oilers, le Wild, les Blues de Saint-Louis ont décidé de changer de coach. Craig Berube des Blues, c'est le dernier en lice. Moi, la question, puis peut-être je vais commencer avec Antoine, si vous me le permettez, c'est quand que c'est bon de faire un changement de coach? C'est quand que ça arrive? C'est quel signe qu'on voit qu'on dit, OK, là, il faut changer de coach, Antoine?
Ça m'est jamais arrivé dans une saison de perdre un coach. Le coach s'est toujours fait changer à la fin de la saison. Puis, mais est-ce que des fois il y aurait pu avoir des signes avant-coureurs que ça, c'était la fin? Oui, j'en ai vu. Kenny Hitchcock, je l'ai vu à étirer l'élastique puis savoir que ça allait être c'était la fin. Là. Puis tellement que à la fin de l'année, là, on était à Los Angeles. Puis Hitch, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui a aucune affection puis qui est vraiment pas son côté humain, là, c'est il y en a 1% dans lui maximum, si c'est 1%. Puis à la fin de la saison, on avait tous connu une saison de misère. Ça avait été tellement difficile. Puis on finit le match, les gars sont tellement, tu sais, on est content que la saison ça soit finie parce que ça a pas été ça a été pas de tout repos. On devait faire les séries, on n'a pas fait les séries. On est au bout du rouleau, on est tanné. Puis Hitch, je le vois pour sauver sa job. il arrive, on descend tous de l'autobus, puis il donne des câlins, mais seulement à Jamie Benn, Tyler Seguin, puis John Klingberg. Puis là, on le regarde tous en se disant, mais tabarnak, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, lui? Nous autres, on en a besoin d'un petit câlin. Puis il était de même. Fait que, est-ce que oui, on l'avait senti perdre la chambre puis perdre la job? Oui, mais lui, il l'avait senti encore plus parce que deux jours plus tard, il se faisait libérer par les Stars. Puis il essayait d'avoir les meetings de fin d'année. Les gars, et un bon mot pour lui, mais le mal était fait. Puis je me souviens qu'à la fin de la saison, tout le monde, ou à 90% de l'équipe, il n'y avait rien de bon à dire sur Hitch à ce moment-là. Mais il n'y a pas juste des mauvaises affaires, ce monsieur-là. C'était autant de la renommée pour rien. Puis il y a des bonnes choses que j'utilise, mais que j'ai compris par la suite quand je jouais. Mais le facteur humain est tellement important. Fait que, est-ce que, puis si on fait le cercle, on revient à Martin Saint-Louis, le facteur humain, lui, il a 200%. Puis est-ce que ça va s'étouffer? Ou s'essouffler, je penserais pas parce que c'était tellement un gros facteur. Mais après 10 ans, peut-être. Mais 10 ans, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce que j'ai déjà vu un coach perdre la chambre? Oui, mais jamais vraiment en pleine saison.
Parce que tu sais, souvent on va dire le message ne passe plus. Les gars ont besoin d'une nouvelle voix. Tu sais, ça c'est dans le festival, c'est dans le grand lit des clichés. Moi, je pense là.
C'est vrai.
Oui, non, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les joueurs ont le plein pouvoir à savoir si le coach reste ou reste pas.
Ben, en fait,
c'est eux autres qui décident pas mal.
Ça dépend.
Attendez une minute. Quand les joueurs décident de plus jouer là, ça c'est une décision là. Ils décident, tu sais, ben, je dis pas qu'ils se parlent, puis ils disent on ne joue plus, mais tu sais quand tout le monde en même temps a plus d'intérêt à faire ce que le coach te dit, veut pas la prochaine étape, c'est le coach en va, là, c'est ça qui va se passer.
Non, les contrats
jamais délibérés par exemple.
Non, puis tu sais, je veux dire la question du contrat là, parce que je reviens à ça parce qu'on parlait de Mike Sullivan cette semaine au Centre Bell avec la visite des Pingouins. Si ça marche pas pour les Pingouins, Mike Sullivan a un contrat jusqu'en 2027. Donc, dans le fond, sa prolongation de contrat, elle n'a pas encore commencé. Sa prolongation de contrat commence l'été prochain, 5,5 millions par année jusqu'en 2027.
OK, je comprends ce que tu me dis. OK, dans une situation où tu le sais qu'il va rester là, tu le sais qu'il est sous contrat, j'avoue que les joueurs peuvent pas changer grand-chose. Par contre, quand tu le sais que c'est une situation qui se termine, écoute,
non, ben, c'est ça exactement.
Les intérêts arrivent plus facilement.
Ouais, comme les joueurs, tu sais, ils vont jouer, même si toi, t'es aussi, t'es en fin de contrat, tu vas être évalué sur comment tu joues. Fait que c'est pas vrai de dire nécessairement les gars jouent plus pour le coach. Au final, là, tu joues plus pour toi, pour finir ta saison sur une bonne note, pour espérer avoir un autre contrat. Si tu lèves les feux, puis t'es déjà en vacances à Cancun ou à Cabo, puis il reste 10 matchs à la saison. Ben, tu sais, c'est à toi que tu fais le plus mal.
Mais tu sais, je reviens sur les questions de contrat, mais tu sais, les Blues, Craig Berube, lui, ben, il restait 1 an et demi de contrat. Et qu'est-ce qui se passait chez les Blues? Ben, Jordan Kyrou, qui touche 8 millions par année pour encore 6-7 ans, ben, lui, ça allait pas. Puis Robert Thomas a pas non plus une saison de sa main à la hauteur des attentes.
Il s'est fait huer. C'est Kyrou. Les yeux pleins d'eau dans
Kyrou qui s'est fait huer. C'était exact. C'était quelque chose. C'était suite à ses commentaires sur Craig Berube, justement. Ben, bref, là, c'est ça. Tu sais, t'avais les joueurs qui font partie du noyau de l'équipe, qui sont sous contrat à long terme et qui se mettent à pas performer à la hauteur de leurs attentes. Et puis là, ben là, après ça, Kyrou, c'est ça, avec ses commentaires, a laissé croire que c'était pas l'amour fou avec Berube. Après ça, il a tenté de nuancer ses propos. Mais disons que sur le coup, quand tu as dit « j'ai rien à dire sur lui, c'est plus mon coach », ben, c'est sûr c'est
un peu froid, ça.
Ben, bref, tu sais, Berube tombait dans cette espèce de triangle des Bermudes pour un entraîneur, c'est-à-dire ton contrat est à moins de 2 ans terminé, t'as plusieurs gros noms qui sont sous-productifs, donc là c'est...
Mais tu sais, les directeurs généraux puis les vice-présidents, là, ils veulent pas donner tout le pouvoir aux joueurs non plus, il faut faire attention. Tu sais, s'ils sentent qu'il y a une rébellion puis qu'il y a des joueurs qui vont les voir, je pense pas qu'ils vont congédier le coach immédiatement, ils vont attendre. T'sais, leur décision, elle va peut-être être prise sur le champ dès que les joueurs viennent, mais ils vont peut-être attendre 3 semaines avant de le faire pour pas donner l'impression d'être réactif, puis je réagis parce que oui, les gars, vous avez raison, puis je vais le faire maintenant, parce qu'après ça, s'ils aiment pas le prochain, il va se passer la même chose
les
aussi.
Les Oilers n'ont pas donné le plein pouvoir à McDavid, là.
Non, mais attends...
c'est pas son ancien agent qui est DG?
Qui est président.
Président?
Ouais. Bon. peut-être McDavid, c'est une exception. Autrement, je pense que de façon générale, comme dit ma belle-mère, c'est comme un serpent sonnette. T'en as jamais vu, mais la première fois que t'en vois un, tu le sais que c'est ça. Tu le sens, OK? Tu sais,
ta belle-mère, as-tu des liens de parenté avec Martin Saint-Louis?
Ah, les deux sont à Laval, par contre. Mais je pense que comme boss, à un moment donné, tu le sais. C'est un feeling, là. Tu le vois, tu sais, il y a une perte de passion chez le coach ou il y a une... Le message passe plus, mais des fois, c'est même pas... C'est juste, il y a même plus de message, des fois, tu sais. Le coach, il sait, là, il est pas tata, là, tu sais. Puis des fois, il essaie de sauver sa job. Puis quand... D'ailleurs, on l'entend souvent, là, juste avant le congédiement, le coach, dans un point de presse, va dire, ah, j'en ai plus de solution. Tu sais, souvent, on les voit... Hey, on l'a entendu à Montréal,
mais quand ils disent ça, là, tu sais...
Claude Julien, Dominique Duchamp, tu sais, on l'a entendu souvent. Quand ça arrive, c'est généralement c'est le début de la fin.
Tu peux pas dire ça.
Ben ils l'ont dit, ils l'ont dit. Tu sais.
Non mais c'est, mais en soi c'est un petit peu comme Martin Saint-Louis, tu sais, dit avec Anderson. Ouais. Tu sais, il faut que tu veuilles encore sauver la peau, sans ça t'abandonnes. Mais quand tu dis ça en conférence de presse, ça veut dire que tu fais le drapeau blanc.
Non, exactement. Puis l'autre facteur pour lequel il peut avoir des congédiements, c'est si le directeur général sent que son job est en jeu. Puis il va préférer, des
font
fois...
Ils font pas ça dans la Ligue nationale,
ben oui, franchement.
Ils vont pas pousser quelqu'un en dessous de l'autobus pour sauver
ben,
le job.
C'est soit que les deux partent en même temps, ou soit qu'il y en a un des deux qui part, puis t'as une énième chance. Ça peut arriver aussi. Bon. Je pense que c'est les trois facteurs qui font en sorte qu'un entraîneur peut se faire mettre dehors.
On va s'arrêter là-dessus. Si tu veux, Guillaume, tu veux ajouter quelque chose?
J'allais juste ajouter que c'était très drôle parce que tout le monde attendait DJ Smith en début d'année. Puis là, on arrive là et on parle de tous les entraîneurs sauf.
C'est ça. Mais là, la dernière fois, j'ai parlé de DJ Smith. C'est DJ Smith va-t-il se faire congédier version 2.0? Après, tu vas à la version 3.0. Ouais. Ça devrait aller jusqu'à la fin de la saison. OK, on va s'arrêter là-dessus pour retour. On va se parler d'un tournoi de mi-saison. Semblerait que la NBA, on a connu du certain succès là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée pour la Ligue nationale? De hockey, Alexandre Pratt, qui est avec nous aujourd'hui, a écrit là-dessus ce matin. Et on va poser la question, est-ce que c'est une bonne idée un tournoi de mi-saison dans la Ligue nationale de hockey? Merci. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 24, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Alexandre, ce matin, papier intéressant.
Merci.
Tu fais un comparatif avec ce qui se passe du côté de la NBA. On a eu un tournoi de mi-saison qui était accueilli assez froidement au début.
Au début, c'était terrible.
OK, mais ça a connu quand même un certain succès.
Au début, c'était qualifié... Écoute, le Miami Herald a titré « C'est une idée idiote ».
OK, mais juste peut-être expliquer si des auditeurs présentement qui ne comprennent pas ce qui s'est passé du côté de l'NBA, qu'est-ce qu'on a fait au juste? Là?
OK, donc c'est une idée empruntée au championnat européen de soccer. Donc au soccer, vous avez une saison régulière qui implique comme les 20 équipes de la Ligue, mais en parallèle de ça, il y a plein de petites compétitions. Donc vous jouez d'autres matchs pour, par exemple, la Coupe de la Ligue. Donc les 20 clubs de la Ligue s'affrontent entre eux autres pour un championnat. À la fin, ils donnent un trophée à celui qui gagne ce tournoi-là. C'est comme au hockey là, quand vous êtes petit. Là, vous avez votre saison régulière puis vous avez des petits tournois à gauche.
Ouais.
Donc ça, c'est très populaire en Europe. La beauté de ça, ça fait en sorte que si t'es largué au championnat, t'as quand même une chance, deux, trois autres fois dans l'année, t'as une chance de gagner quelque chose. Tu sais, dans une ligue comme la NBA ou la Ligue nationale, où t'es rendu à 30-32 clubs, tu sais, de notre vivant, là, on va peut-être voir un défilé. Peut-être deux, là, si on est chanceux. Mathématiquement, là, un club gagne aux 30 ans à peu près. Tu sais, c'est plus comme quand nos parents étaient jeunes puis qu'un club gagnait aux 6 ans. C'est pas la même chose. Donc, le but, c'est d'augmenter les chances de célébrer. Donc, en Europe, ils le font, puis ça fonctionne très bien. Alors, la MLS a introduit ça cet été au soccer. Il y a eu la Coupe des Ligues qui a été un giga succès. C'est là que Messi est arrivé à MLS.
Ça aide un peu, Messi.
Ça aide, mais à Montréal, le match qu'il y a eu contre les Pumas...
C'est le seul de l'année auquel j'ai assisté.
Non, mais je veux dire, ça a été le meilleur show. Moi, c'est le plus beau show... que je pense qu'il y a eu au Stade Saputo. Depuis l'ouverture du Stade Saputo, l'ambiance était débile. Okay? Ils ont eu des scores hallucinants partout. Ils ont fait des cas d'écoute extraordinaires, tous les matchs qui impliquaient Messi, mais même ceux qui impliquaient pas Messi. La NBA, ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient eux aussi sur un concept. Eux, la twist, c'est le tournoi, il est imbriqué dans la saison. Okay? C'est un peu spécial. C'est-à-dire, ils ont fait 6 poules de 5 équipes et... toutes ces équipes-là s'affrontaient en tête. Donc, c'est comme un run-robin là, dans un tour. Okay. Sauf que les matchs, ils comptaient aussi pour le classement général dans la fin de la saison. Donc, tu as intérêt à gagner tous tes matchs parce que tu avances et pour ta saison et pour le tournoi. Et là, les huit meilleurs passaient à la ronde suivante, puis après ça, c'est comme un tournoi de tennis, là, élimination simple. Et la finale, c'était la semaine dernière, et ça a opposé les Lakers de Los Angeles aux Pacers de l'Indiana. Puis c'est tout ça est imbriqué dans le calendrier. La seule façon que tu saches, là, si tu ouvres la télé, c'est le plancher, il est d'une couleur foncée, un peu comme si la glace au Centre Bell était rouge, puis les joueurs ont des uniformes spéciaux. Et ça a été un giga succès. Écoute, la meilleure cote d'écoute pour un match de saison à Indianapolis depuis 2001. Quand même, là, ils ont fait genre 4,5 millions pour la finale au total. 45% de hausse des cotes d'écoute par rapport au match de novembre de l'année dernière. T'sais, je veux dire, c'est des chiffres, tu peux pas ignorer ça. Et là, tu te dis, merde, la Ligue nationale devrait faire un tournoi de mi-saison. C'est archi logique. D'abord, tout le monde trouve que la saison est longue à 82 matchs. Là, on est présentement dans le ventre mou de la saison, là, genre où on sait jamais quand est-ce que le Canadien joue, contre qui, là, t'es dans un party de Noël, puis dans un concert pour les enfants, puis dans un tournoi de hockey. Tu sais, la Ligue nationale doit faire un punch, à mon avis, en cours de saison pour relancer l'intérêt dans un paquet de marchés. Tu sais, il y a plein de villes présentement, là, San Jose, tous les clubs qui sont largués, là. Il n'y a même plus d'intérêt presque d'ici la fin de l'année. Ça va être encore pire au mois de janvier. T'sais, est-ce qu'on peut penser qu'au mois de janvier, t'organises un tournoi semblable à celui de l'NBA? Ça peut compter aussi pour la saison régulière, mais tu as une autre compétition, tu as un autre trophée à gagner qui remet de l'intérêt dans des villes où les clubs sont éliminés. Pensez à Montréal l'année dernière, là, où le club était largué à Noël. Là, ça aurait été le fun. Au mois de janvier, d'avoir des matchs significatifs.
Mais c'était pas la Coupe du Monde qui faisait ça quand la Ligue nationale de hockey organisait ces rencontres internationales-là?
Oui, mais international, c'est pas la même chose qu'un club.
Des Olympiques, là.
Mais c'est pas la même chose. Là, c'est un tournoi de clubs. T'sais, donc, tu peux suivre ton club. T'sais, ça serait le fun. L'année dernière, ça aurait été le fun que le Canadien joue des matchs significatifs en janvier ou en février, plutôt que, il reste 40 games, on va les regarder s'écouler, puis c'est long.
T'sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu parles de matchs significatifs. C'est l'expression de Jeff Gorton, justement, pour parmi ses objectifs de la saison. Et, tu sais, ce qui se passe, là, c'est qu'avec le temps que ça prend maintenant, une reconstruction, ben, t'as des équipes qui peuvent être facilement un 3-4 ans sans jouer des matchs significatifs. Imaginez si Chicago est 3-4 ans sans match significatif. Connor Bedard, amateurs de hockey vont passer 3-4 ans avant de voir Connor Bedard jouer des matchs qui comptent, qui veulent dire de quoi. Alors, si tu rentres un tournoi comme ça en plein milieu de la saison, ben ça te donne cette chance de plus, c'est un prétexte de plus pour...
Les deux meilleurs cas, là, juste une affaire. Miami, cet été, il était dernier au classement général. Toutes les games, mettons qu'il n'y aurait pas eu le tournoi, là, toutes les games avec Messi là, jusqu'à la fin de l'année, là, ça aurait été 0-0 important là, au niveau sportif. Là, ils rentrent dans un tournoi, ils ont gagné le tournoi.
C'est Messi qui fait la différence.
Oui, mais les matchs comptaient. Non, mais ce que je veux dire, Jérémy, les matchs comptaient. Les gens, il y avait une raison de regarder le match parce qu'il y avait un enjeu avec un trophée au bout, alors que s'il y avait eu un Nashville-Miami de saison régulière, même avec Messi, là, il aurait jamais fait 2 millions de cotes d'écoute.
Moi,
là,
je veux un tournoi de mi-saison, Ligue nationale de hockey, juste s'ils jouent deux matchs par jour puis qu'ils font sécher leur stock dans la chambre, qu'ils rembarquent dans du stock.
Mais tu ris, mais je l'ai
juste
pas.
Ça, là,
mais,
ça, c'est correct.
Jérémy, j'ai proposé une affaire de même il y a 4 ans, je m'étais fait un peu ramasser, mais moi, j'avais proposé tournoi 3 contre 3. Moi, je préfère un contre-plein. Le contrat de l'NBA, c'est bien.
On fait ça, en soulier de ballon-ballette, en café. Vas-y, Antoine, comment tu penses ça, un tournoi de mi-saison?
Moi, vous prêchez pour... je suis déjà convaincu. Je trouve que ça prend ça. Ça prend plus d'intérêt. Moi, en tant que joueur, quand tu sais que tu as 32 équipes puis tu as seulement une coupe Stanley, puis que tu peux... des fois, la réalité fait en sorte que tu joues pas pour les meilleurs clubs. Je trouve que ça donne une opportunité de changer comment on fait les choses habituellement. C'est-à-dire que, oui, tu te qualifies en série, mais c'est le fun aussi, un autre trophée. Puis, il y a des joueurs, exemple, Maxime Lapierre, je parlais souvent avec lui de ce projet, de ça. Parce qu'en c'est sorti, moi aussi, je disais, je trouve que la Ligue nationale devrait faire ça. Puis Maxime, lui, il était con, il a dit non, moi j'aime pas ça, c'est seulement la Coupe Stanley. Mais il y en a qui pensent comme ça, puis c'est correct, parce que c'est des romantiques, c'est des traditionnels. Ils pensent que ça, il y a une façon, puis on peut jamais vraiment tirer l'élastique puis faire quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr que la nouveauté des fois fait peur. Mais pour moi, quand t'arrives avec ce genre de concept-là, c'est sûr que la première année, tout le monde va pas nécessairement aimer ça. Mais à l'année 5, à l'année 6, à l'année 7, ben c'est quand tu es dans cette situation-là que tu peux jouer et peut-être gagner ce trophée-là en tant que joueur, ben tu vois encore plus d'intérêt. Puis comme vous le disiez, pour certains marchés, et vous êtes tellement bien mentionné, comme Sandre Rosé, quand tu regardes dans les estrades, il n'y a pas un chat, mais peut-être que pour ces matchs-là, ben ça fait la différence. Mais le gros point de la NBA, c'est que ça rajoute pas de matchs.
Ouais.
C'est que c'est, je pense que c'est ça que faut retenir dans tout ça, c'est que il y a un seul match qui a été rajouté, c'est la finale. Puis c'est ça que faut retenir, parce que si tu étais pour rajouter une quinzaine de matchs à ta saison, oublie ça, ça marchera pas. Mais si tu substitues ou tu fais d'une pierre deux coups avec certains matchs, ben c'est là que c'est super intéressant.
Mais tu sais, Antoine, tu as grandi en France, là. Tu as vu les compétitions, là. Ça existe. C'est quoi? Il y a la Coupe de France. Ben oui, la Coupe de France, hockey, présentement, je pense qu'il y a deux clubs de deuxième division, en tout cas récemment, là, qui étaient en demi-finale chacun. C'est cool, là.
C'est clair. Pour vrai, c'est vraiment plaisant. Puis j'ai même envie de te dire, j'aimerais ça voir un mondial des clubs.
Ouais.
Ça serait fou, ça aussi. En début de saison, tu prends les champions de la Coupe des Champions. Il y a de la Coupe des Champions aussi en Europe, puis la Ligue des Champions. Puis, tu sais, même si c'est pas nécessairement des équipes ou des calibres qui sont totalement comparables, ben, tu sais pas, tu pourrais prendre une équipe de la championne de la KHL, les champions de la AHL qui mettent tout ça ensemble. Je sais pas, tu sais, tu pourrais organiser quelque chose du genre. Puis, ça serait une autre genre de compétition. Parce qu'au final, c'est cool de ramasser des trophées. Puis, je pense que c'est ça que, en tant que joueur, dès qu'il y a un trophée, tu viens de la compétition, tu veux le ramasser.
Non, mais quand t'es enfant, les moments les plus fun d'une saison, c'est quoi, Jérémy? C'est les tournois.
Ben, en fait, c'est jouer au petit hockey dans le corridor de la chambre.
Pendant le tournoi.
T'as raison. Mais, ceci étant dit, si on a une finale consolation, moi, je joue. Tu sais, ça prend une finale consolation, les deux équipes qui ont perdu, qui s'en vont dans la finale consolation, et le joueur le plus ami, l'équipe la plus disciplinée du tournoi.
Ah, le fair play.
Le fair play, l'équipe de fair play. Hey, les gars, quelque chose qui est moins drôle, on va parler d'un joueur, et Guillaume, relate-nous un peu l'information. Il y a un joueur des Coyotes de l'Arizona qui est resté seul du côté de l'hôpital à Dallas après avoir eu une rondelle en plein visage. Je vais juste nous raconter.
Exactement. C'est Yusuf Välimäki, défenseur des Coyotes de l'Arizona. C'est une histoire de Frank Saravalli, là, du site Daily Faceoff. Alors, c'était à la mi-novembre, là, donc l'histoire vient d'être révélée, mais ça s'est passé à la mi-novembre. Et donc, c'est ça. Donc, il était atteint au visage, blessé quand même sérieusement au point où il doit être transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, dans le fond, donc les Coyotes étaient à Dallas, alors étaient à l'étranger. Dans ce temps-là, l'équipe à domicile est quand même impliqué. Les médecins de l'équipe à domicile sont quand même impliqués là, pour un certain nombre de soins. Mais donc, on a laissé Välimäki seul à l'hôpital, dans le fond. Ça donnait que sa conjointe était là pour ce voyage-là, mais c'est quand même rare que les conjointes sont avec les joueurs sur la route. Dans ce cas-là, elle était là, donc elle a pu rester avec lui. Mais bref, il n'a pas été opéré sur le coup, et on lui a dit, ce qu'il s'est fait dire, c'est dans le fond, aller à l'hôtel. On a simplement fait le minimum. On lui a dit, va à l'hôtel, on peut juste opérer dans deux jours. Pour le moment, on est débordé avec d'autres cas, d'autres blessés graves en ce moment. Alors, on ne peut pas te soigner tout de suite. Dans le fond, il s'est fait dire ce qu'on se fait tous dire quand on va à l'hôpital. Mais bon, la Ligue nationale et l'Association des joueurs, disons, ont des standards différents des nôtres. Mmh. Alors, donc, ça fait une certaine controverse. Et une des choses qui pose problème là-dedans, c'est que là, finalement, donc la conjointe de Välimäki a insisté pour qu'il soit vu rapidement, parce que clairement, ça n'allait pas, puis il était très souffrant. Et ça a été su par après que s'il avait été se coucher à l'hôtel, il aurait même pu mourir, possiblement étouffé dans son sang, quelque chose comme ça, parce que ça avait pas été, l'hémorragie avait pas été soignée. Donc, tu sais, finalement, ça a été correct, mais ça aurait pu être un gros cas de négligence.
OK, là-dessus, les Coyotes sont pas blâmés, là.
Exactement. C'est ça. Ce qui en ressort pour le moment, là, il y a une espèce d'enquête conjointe de la Ligue et de l'Association des joueurs. Ce qui en ressort, c'est peut-être plus un trou dans le protocole de gestion des blessés. Mais non, les Coyotes ne sont pas, c'est facile, là, on voit passer l'histoire, puis on pense, bon, encore les Coyotes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Dans ce cas-ci, et le joueur lui-même, dans l'article, est cité comme étant satisfait là, de l'encadrement que les Coyotes lui ont fourni.
OK, Antoine, tu joues pour les Coyotes, tu joues pour les Stars de Dallas. Raconte-nous, est-ce que c'est quelque chose qui arrive, ça, ces affaires-là?
Oui, c'est comment? Je pense que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout avec les Coyotes. Ben, justement, avec les Coyotes, je me souviens d'une fois, puis avec les Canucks aussi. T'as un joueur qui est blessé, il peut pas prendre l'avion. Même avec les Stars, à vrai dire, à un moment donné, on était à Kelowna, on était entre deux voyages, on avait joué à Calgary, puis on s'en allait à Vancouver. Puis Brett Ritchie, il file pas, il est dans l'avion, puis il s'évanouit quasiment. Fait que là, on fait venir l'ambulance, puis c'est juste pas sécuritaire pour lui de voyager à ce moment-là. Il est débarqué, puis l'équipe médicale, les trainers dans le fond, qui sont là, Il y en a un qui est resté avec lui, puis ils sont venus nous rejoindre quelques jours plus tard, quand la situation était sécuritaire. Donc oui, ça arrive. C'est vraiment pas le genre de situation que tu veux voir arriver à n'importe qui vraiment de ton équipe. C'est vraiment pas idéal, mais il y a des protocoles pour ça. Puis c'est souvent bien fait. Est-ce qu'il y a eu un manquement là? Je pense pas, parce que les Coyotes, tu sais, peut-être qu'ils font pas les manchettes sur plusieurs aspects en termes de comment on fait de la gestion, mais sur leurs employés qui sont présents sur place à tous les jours, ils sont irréprochables, puis ils sont incroyables pour de vrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ben, je pense que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là aussi.
OK. Les gars, déjà, on parlait beaucoup aujourd'hui. Je fais un tour de table rapide. OK. La Ligue de hockey junior majeur du Québec qui décide de changer de nom va s'appeler maintenant la Ligue de hockey junior maritime Québec. As-tu un problème avec ça, Alexandre?
Zéro.
Guillaume, as-tu un problème avec ça?
Zéro, puis une barre.
Antoine, as-tu un problème avec ça?
Non. Ben correct.
Fait que on vient de
rétablir l'équilibre dans toute la presse québécoise.
C'est quoi cette affaire-là que tout le monde capote? Ben non, pas nous.
On est dans l'inclusion, c'est vrai. Il faut les inclure avec nous autres, les maritimes. Ils font partie de la Ligue.
C'est des marchés importants. Là.
C'est le reflet d'une réalité, pour vrai.
Ben c'est ça. C'est comme, la East Coast League qui est devenue la ECHL. Ils ont arrêté de l'appeler East Coast quand ils se sont rendus compte que l'Alaska n'était pas sa côte est.
Ce qui est assez logique.
Ouais.
Ce qui est assez logique. Bon, ben messieurs, on s'est pas trop obstiné là-dessus. Parlez-moi de ça. C'est déjà tout pour ce balado sorti d'onde. Guillaume Lefrançois, ce fut un plaisir.
Merci, JR.
Alexandre Pratt, toujours la fin. Merci, Alexandre.
Plaisir, bon week-end.
Grand plaisir. Merci beaucoup, Antoine.
Merci les gars, bonne fin de semaine.
Voilà ce qui complète ce 24e épisode de Sortie de zone. Nous, on se reparle le 20 décembre prochain.